9h02, c'est le moment du rendez-vous avec Émile Procloutier. Émile, bonjour.
Bonjour.
Là, ce matin, on va parler des contenants.
Ouais.
Qu'on peut réutiliser.
Oui, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup parlé de cette consigne pour les bouteilles de vin qui s'en vient, tout ça, mais je me disais, on sait que ça marche pour la bière depuis longtemps. Mais je me disais, je me rends compte qu'il y en a plusieurs initiatives brillantes, certaines même qui ont été démarrées au Québec, qui misent donc sur la réutilisation d'un contenant plutôt que de l'acheter, consommer le produit, puis que le contenant se ramasse direct au bac de recyclage. Donc, pour diminuer un peu la pression sur les centres de tri, pour qu'il y ait moins de matière qui parte de chez nous tout de suite, puis moins de contenants donc à usage unique, mais que des contenants qui soient réutilisables. C'est quoi des systèmes de consignes qui sont organisés par des commerces pour faciliter la réutilisation donc des contenants? D'abord, je prends une nouvelle de votre tasse que je vous avais offert. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle est toujours là.
Toujours là, utilisée.
Une tasse à café. Donc ça, c'est vraiment bon. C'est une très, très bonne option. Puis souvent, même pour les cafés, donc je commence avec ça. Une option, évidemment, qui évite beaucoup de gaspillage de contenants à usage unique, c'est cette fameuse tasse qu'on peut acheter et qu'on remplit, qu'on traîne avec soi.
Mais sais-tu ce qui faisait un peu sursauter les gens?
Ouais.
Ils arrivaient dans une bannière, mettons, avec la tasse comme ça. Qui est réutilisable. Et l'employé se faisait dire par son patron, pour mesurer le café, prends un gobelet de carton.
Ça m'est arrivé une fois,
c'est arrivé à bon.
Oui, c'est un petit peu drôle. Mais il y a des... c'est comme si on avait le choix entre la tasse qu'on possède et le gobelet jetable du commerce. Là, il y a une initiative qui vient comme combler le trou entre les deux. C'est une initiative québécoise qui est née à Montréal qui s'appelle La Tasse. Donc... eux autres se sont dit, notre gobelet de café, il va être consigné. Tu rentres dans le commerce, tu dis bonjour, je veux un café, tu le payes, mais tu donnes 5$ en consigne, puis tu donnes une tasse en plastique qui est ça avec un couvercle, tu pars avec. C'est écrit dessus, c'est bleu, ça s'appelle la tasse. Une fois que tu as fini, plutôt que de le jeter, la prochaine fois que tu rentres dans un café de ce réseau-là, tu peux juste le redonner, c'est une autre place, il te redonne ton 5$. Fin d'histoire. Tu peux aussi faire re-remplir ça avec un autre café, ou encore la donner, dire je veux un autre café dans une tasse. Neuve, puis eux autres, ils vont garder ta tasse utilisée, ils vont la mettre dans un tas, ils vont laver ça plus tard, puis t'en donnes une autre. Donc, c'est le même principe que la tasse jetable, c'est juste que là, c'est un système qui roule.
Qui roule, ouais.
Évidemment, ce type de système-là repose sur la force d'un réseau. C'est juste deux cafés qui l'ont, ça marche pas. Sauf que là, depuis, ça fait quelques temps que ça existe. Moi, j'en ai entendu parler à l'automne. Il y a 350 cafés au Québec qui ont adhéré à ça, des commerces. Il y en a évidemment, bon, il y en a plusieurs à Montréal, plus d'une centaine, mais en Abitibi, il y en a une dizaine, dans Laurentides, 16 commerces, une vingtaine dans le centre du Québec qui ont adhéré à ça.
Comment on les trouve, ces commerces-là?
Il faut que tu ailles sur le site puis que tu le saches. Avez-vous la tasse ici? Souvent, tu le vois. Souvent, ils vont le montrer. Ça va être en évidence. Tu vois, là, nous acceptons la tasse ici.
Okay.
Souvent, ça va être dans des cafés, évidemment, indépendants. Donc, c'est pas hors des grandes chaînes. Mais le système est quand même assez brillant et ça marche. Et évidemment, ça fait des petits, parce que tranquillement, c'est en train de se déployer partout. Et puis, quand tu le rapportes, tu n'es pas obligé d'en prendre un autre. Tu peux juste la déposer là, on te donne 5$, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de la laver, tu n'as pas besoin de t'en... C'est juste s'il est brisé qu'il ne l'accepte pas, mais même s'il y a un petit crash dessus, elle est acceptée par les commerces qui sont membres du réseau. Je vais quand même prendre la peine de vous donner quelques chiffres qui donnent mal à la tête, parce que c'est lourd, là, l'histoire des gobelets jetables à l'échelle de la planète. Dans le monde, 1 million de gobelets à usage unique sont jetés chaque minute. 1 million chaque minute dans le monde.
Alors, tu imagines pendant ta chronique combien il y en a qui sont jetés?
C'est fou, ça va être juste moi pendant que je parle, c'est 8 millions. Au Canada, entre 1,5 et 2 milliards de gobelets à usage unique finissent chaque année dans un site d'enfouissement. Pour les villes et les municipalités, ces gobelets-là représentent un quart des poubelles de rue, 15 % des déchets sauvages. Un tiers des bacs de recyclage de rue. Et d'ailleurs, c'est la principale source de contamination de ces bacs-là, parce que le petit liquide sucré qui est là-dedans, ça coule sur le reste, puis ça peut même rendre le reste non recyclable. Et au Québec, souvent, ces gobelets-là de carton pour les boissons pour emporter sont très peu recyclés, parce que le carton est généralement doublé de plastique polyéthylène, ce qui le rend difficilement recyclable. Les couvertes de boissons aussi pour emporter sont un type de plastique qui se recycle mal. Fait que c'est une catastrophe, cette affaire-là. Donc, l'option, évidemment, d'avoir sa propre tasse, c'est pas pire. C'est très bien. Mais entre les deux, de s'abreuver un café à un commerce qui est membre du réseau La Tasse, c'est une fichue de bonne idée. Moi, j'aurais aimé ça, j'aimerais ça me faire greffer le cerveau du gars qui a pensé à ça ou de la fille qui a pensé à ça. Puis je me dis, imagine si Tim Hortons, puis Starbucks, puis McDo embarquaient là-dedans. Puis il y avait chacun leur système, mettons. Là. Dans ta routine, tous les jours, il y a du monde qui vont passer au même Tim Hortons tous les matins, se prendre leur truc. Ce serait si simple. ce serait pas compliqué. Puis en plus, avec leur économie d'échelle, eux autres, ils pourraient sans doute rendre, ce serait peut-être pas 5$, ce serait peut-être 3$, 2$, ça se pourrait. Alors, c'est vraiment...
Voilà,
je sais pas
s'il
y a le propriétaire de Tim Hortons ou Starbucks qui nous écoute ce matin, s'il parle français. En tout cas, on mettra l'adresse du site de La Tasse,
ouais,
afin de savoir comment ça marche. Ça va être sur notre site à nous.
Pensons à la pinte de lait.
Oui. Alors, il y a une laiterie québécoise qui a parti un système qui s'appelle la pinte. Donc, c'est vraiment, ça, pour les nostalgiques, là, ça va être c'est une
et
bouteille
boy, oui,
en vitre. Vous avez livré du lait, vous, non? Vous n'avez pas dit ça?
Oui,
comme,
oui,
comme job de...
Ben, écoute, j'avais pas 12, 13 ans.
Donc, c'était des chevaux ou c'était...
Non, quand même pas.
Mais je sais pas, pour moi, vous êtes intemporel, je ne sais pas.
C'était un laitier, okay, qui faisait le tour des maisons, puis c'était des bouteilles en vitre.
Puis vous l'aidiez à transporter ça?
Oui.
Donc, arrivé à la porte de la maison, est-ce qu'il y avait les bouteilles vides de la veille que tu prenais?
Les gens mettaient l'argent dans la bouteille qui avait rincé, puis l'hiver, ça gelait. Fait qu'il fallait faire réchauffer les bouteilles dans,
pour avoir le cash. Ah, c'est bon.
Oui.
OK. Ben alors, donc, là, c'est pas le même système avec la livraison, sauf que le principe, c'est que dans certaines épiceries, c'est une initiative qui est née en Estrie, c'est là que la laiterie se trouve, mais il y en a à Montréal, il y en a à Montérégie aussi. Certaines épiceries, donc, qui vendent de ce lait-là, la pinte, c'est une grosse bouteille en lait en vitre, qui est très robuste. Et bien, c'est du très bon lait bio qu'il y a dedans. Mais quand tu l'achètes, c'est comme si tu payes la bouteille une fois. Mais après ça, quand tu peux la rapporter puis tu te fais rembourser ton 2$, ou encore, ben, tu fais juste la rapporter, en prendre une autre, puis là, tu payes juste le lait puis tu ne payes plus la bouteille. Par rapport au verre spécifiquement, c'est pas un matériau banal. Bon, on sait qu'il est composé de sable, qui est une matière première qui est surexploitée aujourd'hui. L'humanité en consomme environ 40 milliards de tonnes par année. C'est une ressource qui est en voie d'épuisement. Donc, je ne sais pas si ce système-là de la pinte, qui est quand même marginal pour l'instant, pourrait être appliqué à d'autres types de
boissons,
de bouteilles, de boissons, ça se pourrait peut-être. Mais eux, ils apprennent, ils la lavent, puis ils la remettent en circulation, puis une bouteille peut être utilisée une trentaine de fois avant d'être recyclée. Une autre initiative, qui est là, même, là, si on sort du domaine de la bouffe, du lave-glace.
Ça, j'ai vu ça.
Des stations de
remplissage.
De remplissage. Donc, c'est même titre qu'une pompe à essence.
Exact.
Là, on n'est même plus dans le contenant. C'est comme si le contenant vient de sauter. Donc, c'est qu'au garage, il y a des pompes à essence, puis il y a une pompe à lave-glace. Tu payes au millilitre de ce que tu mets dans ton moteur directement.
Exact.
J'imagine que tu peux aussi te remplir toi-même un petit bidon pour en avoir sa route avec toi.
Oui.
Donc, station de lave-glace, c'est une initiative québécoise. Et c'est vraiment simple. Puis tu payes au millilitre, tu réduis des pertes liées au remplissage, ça réduit évidemment l'empreinte écologique. 22 millions, Paul, 22 millions de bidons de lave-glace en circulation au Québec chaque année. La durée de vie de ça, c'est pas long, là. C'est quand même rien que je...
Non, c'est rapide.
C'est ça, fait que je me dis, c'est fou, comme imagine, avec un petit changement de système, on pourrait soulager les sites d'enfouissement et les centres de tri de 22 millions de bidons. Donc, la tasse, la pinte et la station lave-glace, on va mettre l'adresse des sites sur notre propre site, mais c'est des exemples, il y en a plusieurs autres, mais ça offre, tu sais, si tu offres un système simple aux gens, ils embarquent et ça vaut la peine. Je voulais, en terminant, revenir sur les résultats du sondage qui est sorti hier matin. Vous avez peut-être vu ça passer,
oui,
le baromètre.
Oui,
les
gens ont de beaux principes, mais en pratique, c'est peut-être pas aussi...
Bien, c'est-à-dire que ça, c'est une des conclusions du baromètre. Donc, pour résumer pour les gens, c'est donc le baromètre de l'action climatique au Québec. C'est la première fois qu'on faisait ça. C'est un immense sondage, en fait, qui a eu lieu au mois de septembre en partenariat. C'est un partenariat des chercheurs de l'Université Laval et le média 1.5. Donc, c'est ce média-là qui n'est pas axé sur le militantisme ou la pression politique. C'est vraiment de l'information sur l'action climatique. Les résultats qui sont sortis hier, on a beaucoup misé sur le fait qu'il y avait des paradoxes entre les désirs des gens, leurs préoccupations et leurs actions. Mais bon, le sondage aussi posait des questions, oui, sur les opinions, sur les comportements, mais aussi même sur les connaissances des gens. Et leur idée, c'est de le refaire chaque année, ce baromètre-là, pour voir comment ça évolue.
Ouais.
Les quelques obstacles à l'action, souvent, ça va être le manque de connaissances, de l'impact des gestes individuels sur le climat. Ça, on ne peut pas reprocher ça aux gens, c'est un travail, il faut que les solutions circulent. L'absence de pression sociale. Je ne sais pas si c'est de ma faute que vous amenez votre tâche chaque mercredi ou peut-être que...
Okay, toute la semaine.
Ah, d'accord, semaine. Okay, donc même quand il n'y a pas ma propre pression, c'est super. Le manque de plaisir à agir pour le climat, ça, on peut le comprendre. Par bout, ça peut effectivement avoir l'air vraiment plate. Et l'impression que ça appartient à d'autres que soi, que c'est d'autres instances ou encore d'autres pays même qui doivent agir avant nous. Par contre, j'ai une petite note positive, ce sondage-là, ce baromètre-là, déboulonne plusieurs mythes. Mythe numéro un. On pense souvent que les gens considèrent que les changements climatiques, c'est un problème qui affectera que les générations futures et pas la nôtre. et ce mythe est faux, près de 93 % des Québécois pensent que les changements climatiques concernent leur génération et que ça pourrait avoir des retombées négatives sur leur santé, leur milieu de vie. Mythe numéro 2. On pense souvent que les jeunes sont plus sensibles que les autres, que les plus vieux. Ben, il semble que non. En fait, c'est vraiment très, très équilibré au niveau des actions qui sont déployées au quotidien pour lutter contre les changements climatiques. On pense souvent que c'est les gens en ville, donc à Québec ou à Montréal, qui sont plus concernés par ça, puis que les gens en région s'en foutent. C'est pas vrai, c'est faux. Les préoccupations sont réparties partout, pas mal égales sur le territoire. Et les gens loin des grands centres urbains se sentent aussi préoccupés par ça, ils se sentent concernés. Par contre, on pense souvent que les femmes sont plus concernées que les hommes, et c'est vrai. Il semble que les femmes se sentent plus concernées que les hommes sur cette question-là, notamment les femmes avec enfants, et les hommes sans enfants peuvent avoir tendance à s'en foutre davantage. Et dernier mythe, qu'on pense qu'agir pour le climat, c'est compliqué. Il semble que dans la perception des gens, c'est faux. Non, au contraire, les gens conçoivent qu'ils peuvent agir, que c'est possible, que c'est clair, que c'est simple ce qui doit être fait. Par contre, ils trouvent ça... certains gestes sont plus faciles à adopter, ce qui est lié à la consommation ou encore au recyclage, ça c'est plus clair. Évidemment, tout ce qui est la viande ou encore moins se servir de sa voiture, ils en ont conscience, mais c'est plus difficile à adopter dans le concret. Ça va être refait chaque année, fait que ça se peut qu'on voit...
On voit
le baromètre bouger.
Juste te dire que oui. Les gens qui m'écrivent concernant les fameuses tasses, il y a des bannières, là, des chaînes qui offrent un rabais sur le café. Si tu arrives avec ta tasse, ton café va te coûter moins cher.
C'est une excellente idée.
Bon, tu vois, couche-tasse, le café est une pièce quand tu arrives avec ta tasse.
Ah ben, pas de merci, pub,
c'est un exemple. Merci, 1914.